Bon, hier, on parlait avec la ministre Guilbeault des nouvelles mesures pour les gens qui sont victimes d'inondations. Donc, on veut que ça soit plus rapide, plus efficace, qu'il y ait moins de bureaucratie. Et aussi, il y a des articles dans ce projet de loi qui, quand on décode comme il faut, montrent que le gouvernement veut bien aider, mais si vous êtes un inondé à répétition, ben là, ça serait peut-être temps de quitter l'endroit où vous êtes, puis on va vous aider à partir.
Oui, mais c'était à l'occasion du débordement de la Chaudière. Là, à Beauceville, elle a pris la parole, puis elle a clairement dit ça.
Ouais.
Ce qu'elle a dit, c'est que, écoutez, on est prêt à vous aider, mais si ça fait plusieurs années, il y a un moment donné où l'aide gouvernementale atteint une limite et on va vous
si
dire...
Si vous êtes un inondé chronique.
Hey, c'est un inondé chronique annuel.
Quelle belle expression.
Mais non, mais
c'est un peu c'est... ça. Où elle dit, ben là, à ce moment-là, on vous offrira le choix. Soit vous touchez votre dernier chèque ou on vous aide à vous relocaliser. C'est pas faux comme idée parce que tu te dis, à un moment donné, c'est prévisible qu'année après année, la Chaudière va déborder. Si à chaque fois, t'es dans une zone inondable et t'es inondé, à un moment donné, le gouvernement doit réfléchir au montant qu'il va t'allouer et à la décision que tu devrais prendre. Elle est allée plus loin, par exemple, à même laisser, parce qu'on lui a posé question, mais là, dans ce cas-là, à Beauceville, c'est tout le centre-ville. Est-ce que vous seriez prêt à déménager un centre-ville? Puis, il n'y a pas de nom définitif. Mais moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle-là, c'est le fait que on s'en va vers une augmentation de ces situations-là. On l'a vu dans certains cas avec les grandes marées en Gaspésie. On va le voir de plus aux îles de la Madeleine où une partie des îles a été emportée. Donc, le changement climatique apporte deux choses. La hausse du niveau des mers, d'une part, puis aussi des catastrophes naturelles où tout d'un coup, il pleut pendant trois jours puis il tombe des trombes d'eau et ça inonde. Donc, qu'il y ait un principe de précaution qui devienne en quelque sorte une sorte de politique gouvernementale, je trouve qu'il y a une logique là-dedans à respecter. Ceci dit, c'est pas sans effet sur les individus.
Oui, mais c'est pas sans effet, sauf que c'est pas sans effet sur la collectivité aussi. Moi, je trouve pas ça cruel, là, l'idée qui est avancée par Québec de dire, écoute, t'es un sinistré chronique, les dédommagements auxquels t'as eu droit dans les dernières années... s'élève à 50 % du coût de ta maison ou 100 000 $ là, quelque chose comme ça, ben si tu demandes une autre indemnité, on va te la donner, mais ça va être final. Mais si tu veux t'en aller, on va t'aider à déménager. Je trouve que c'est humain. Je trouve que ça a du bon sens. Y a une réflexion à faire aussi sur les municipalités. Je veux dire, il y a des maisons qui sont construites depuis longtemps. Ça, c'est une chose. Mais les zones inondables, il y a plusieurs degrés de zones inondables. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Il y a des municipalités qui continuent de permettre le développement résidentiel dans des zones inondables. Et la question se pose, pourquoi? La réponse est simple, pour élargir l'assiette fiscale. Une ville, ça veut toujours avoir une assiette fiscale plus grosse. Et là, tu sais, j'ai lu tous les papiers sur la ministre Guilbeault. Dans un journal qui s'appelle Le Placoteux, dans le bas du fleuve, Saint-André de Kamouraska, ben, les édiles de la ville se plaignent parce que, écoute, on peut pas bâtir. Le gouvernement veut pas, c'est compliqué, les permis, parce qu'on est en zone inondable. Ben, ouais, il me semble que ça tombe un peu sous le sens. Avec tout ce qu'on sait sur les dommages causés par les inondations, il est temps que les municipalités commencent à faire face à la réalité.
Mais c'est vrai ce que tu dis, mais aussi, je me souviens, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu avais des maisons qui étaient dans une zone inondable, mais à risque faible.
Oui.
Et là, depuis quelques années, le risque est devenu plus élevé.
Oui.
Alors, puis tu sais, je regardais, il y avait un reportage l'autre jour sur les Keys en Floride. C'est un autre phénomène aussi. C'est-à-dire que t'as construit, puis là, tu te retrouves avec soit des ouragans, avec la crue des eaux, avec donc des maisons qui sont inondables, ou en tout cas qui peuvent être...
Carrément la ville de Miami, en Floride. C'est une nouvelle réalité. En fait, je pense aussi qu'il va falloir réfléchir à la façon dont ces cartes-là, les cartes d'inondation, sont conçues, parce que il y en a de plus en plus. Ceci étant dit, après ça, pour moi, c'est une question de détail. Si le principe est établi, c'est une chose, mais il faut aider les gens à se relocaliser. Puis quand tu penses à ce qui est consacré comme somme, ben tu te dis, écoute, peut-être que si on aide ces gens-là à déménager, changer la maison de place, même carrément des fois, collectivement, c'est peut-être plus viable. Puis individuellement, Paul aussi. Quand t'es sinistré et t'es sorti de ta maison pendant un an, là, c'est un traumatisme. Il y a des gens qui ont carrément des formes de syndrome post-traumatique. Parce que après avoir échoué à défendre leur maison contre les crues, ils sont expulsés, t'es déraciné, c'est tough, là. Faut y penser à ça aussi.
Ouais, peut-être qu'effectivement, le fait, ce traumatisme-là, est plus important que celui de décider d'aller se reconstruire ailleurs. Mais puis aussi, on a vu, tu sais, je me souviens de plusieurs causes, là, où on disait, il y a eu des permis qui ont été donnés sur ce, parce que là, c'est un marécage, mais si on l'a, tu sais, on peut plus tolérer ce genre de comportement-là. On le sait. S'il y a des barrières naturelles, non seulement il faut les laisser, mais ensuite, il faut encourager le fait que ces barrières naturelles-là vont peut-être éviter des catastrophes. Donc, ça me semble, moi, une bonne politique.
Mais j'ai hâte de voir, parce que l'autre volet, c'est le remboursement expéditif, disons.
Sans reçu.
Ouais.
Ah oui, ça, ça, oui, je...
La ministre me dit faire grande confiance en la nature humaine permettrait d'avoir certaines réserves. Et il a été témoin dans le passé, à l'époque du verglas, de certaines manœuvres.
Certaines pratiques qui ont été assez douteuses. Hein?
Oui, quand t'as pas de...
Juste une image. Longueuil, il y a quelques semaines. Longueuil, il y a quelques semaines, il y a un incendie terrible là, qui touche une famille, qui perd tout. Il y a des gens qui vendaient des billets de loto. Mm-hmm. Frauduleusement pour supposément aider la famille. Mm-hmm. Ça, c'est aussi la nature humaine.
C'est aussi ça. Les travaux, là, vas-tu les faire? Travailler au noir? Ou, tu sais, entre l'hyper-bureaucratie qui retarde tout, là.
Oui, là, il y a encore des gens qui n'ont pas été.
Non, non, il y en a qui ça traîne encore depuis la dernière fois. Mais disons que.
Oui. Ben, écoute, c'est beau de faire confiance à la nature humaine.
Oui, mais je trouve ça admirable.
Il y a plus de gens bons, Paul, que de gens qui veulent exploiter les autres, n'est-ce pas?
Quelqu'un m'a dit un jour. C'est un sous-ministre. Il dit, monsieur Arcand, dès qu'une loi est adoptée, dès qu'un règlement est voté, il y a quelqu'un qui pense au Québec, et c'est partout pareil, là, comment contourner?
Ouais.
Le mandat, c'est OK, là, c'est ça le règlement. Comment je fais pour passer à côté puis pas le respecter? Ouais. Premier réflexe.
Il y a le respect de la nature, François, et il y a le respect de la nature humaine qui, des fois, est contradictoire.
Comme me disait aussi quelqu'un, un boss, il me semble qu'il n'y a pas grande nouvelle de ce temps-là. Faut pas s'inquiéter. On peut toujours compter sur la nature humaine pour avoir des nouvelles. Il est 8h39. Au retour, on va parler de la victoire de Jason Kenney en Alberta. On va aller voir ce qui se passe du côté des Laurentides.